Le 18-20, c'est parti. 2 heures ensemble, installez-vous et soyez les bienvenus sur la planète et sa banlieue. Le 18-20 commence comme chaque soir par ce que vous devez retenir de l'actualité de ce jeudi 27 janvier avec le journal de Sébastien Legénie. Bonsoir Sébastien.
Bonsoir Fabienne, bonsoir à tous.
L'essentiel commence par un témoignage exclusif.
Celui de Philippe Boutron, ce pilote français grièvement blessé aux jambes sur le rallye du Dakar il y a un mois dans l'explosion de son véhicule à Jeddah en Arabie Saoudite. La justice française soupçonne un acte terroriste. Il parle pour la première fois à nos confrères de France Bleu Orléans, toujours hospitalisé. Mais sorti d'affaires, on l'entendra. Une journée de grève et de manifestation aujourd'hui pour les salaires, des cortèges dans toutes les villes du pays. Nous serons à Tours avec des fonctionnaires lassés de voir leur point d'indice gelé depuis des années. À suivre aussi les mots de Jean Castex contre la barbarie nazie. Il était à Auschwitz aujourd'hui. Un nouvel espion russe démasqué au cœur d'une université allemande qui travaillait sur Ariane Espace. Et puis pour finir, les très bons chiffres de la BD avec les mangas qui cassent la baraque. La moitié des BD vendus en France sont des mangas.
À 18h15, un jour dans le monde avec un Premier ministre britannique qui essaie de passer entre les gouttes, mais ce sont de grosses gouttes. Cette fois, le Royaume-Uni qui attend toujours le rapport qui dira si Boris Johnson a participé à des fêtes clandestines et combien, qui dira surtout si ces fêtes l'entraînent vers la sortie. À 19h20, c'est le téléphone sonne, le vote de la primaire populaire. C'est parti depuis cet après-midi, 460 000 inscrits. C'est beaucoup, un mode de scrutin très inédit et c'est intéressant. Quelle voie démocratique cela nous montre-t-il, mais est-ce que la gauche va en sortir un peu moins dans le brouillard? C'est moins sûr. Parlons-en au 01 45 24 7000.
France Inter.
C'était donc le 30 décembre dernier, une explosion d'origine inconnue stoppe son véhicule en pleine course.
On est à Jeddah en Arabie Saoudite, juste avant le départ du rallye du Dakar. Au volant, le pilote français Philippe Boutron, très gravement touché aux jambes. Une explosion sous le plancher de sa voiture, aux origines toujours mystérieuses. Les autorités saoudiennes écartent tout acte criminel, mais la justice française, elle, soupçonne un acte terroriste. Près d'un mois après, Philippe Boutron est toujours hospitalisé à l'hôpital militaire de Percy, de Clamart. Son état de santé s'est nettement amélioré. Il a donc accepté de se confier pour la première fois à l'un de nos reporters. Témoignage exclusif signé Christophe Dupuis de France Bleu Orléans.
Si l'esprit est parfaitement clair, au son de la voix, c'est un homme encore très affaibli qui se remet doucement de plusieurs opérations et greffes aux deux jambes. Philippe Boutron a évité l'amputation et les dernières nouvelles sont plutôt bonnes.
La situation s'améliore, j'ai été touché aux deux jambes. Mais on a affaire à des grands professionnels dans cet hôpital et je suis réopéré lundi là. Maintenant, je ne sais pas quand est-ce que je pourrai remarcher exactement, mais mes jambes sont sauvées et ça c'est l'essentiel.
De l'explosion, Philippe Boutron se souvient simplement d'un gros choc. Quant à l'enquête, il ne sait pas grand-chose, mais a déjà été interrogé à 2 reprises.
Pas grand-chose, hein. Je sais que tout le monde a été entendu par la DGFI, là, et puis qu'ils doivent se rendre sur place, mais je n'en sais pas plus.
Et vous avez donc rappelé que pour vous, c'était effectivement une bombe qui avait été placée sous cette voiture et pas autre chose?
Oui, tout à fait, tout à fait.
Une enquête préliminaire pour tentative d'assassinat en relation avec une entreprise terroriste a été ouverte le 4 janvier dernier par le parquet national antiterroriste.
Christophe Dupuis de France Bleu Orléans, toujours aucun enquêteur n'a pu se rendre en Arabie Saoudite. Des négociations diplomatiques sont en cours pour permettre à la police antiterroriste de se rendre à Jeddah afin notamment d'examiner le véhicule de Philippe Boutron.
La question du pouvoir d'achat dans la rue aujourd'hui.
Tout augmente sauf nos salaires, slogan partagé aujourd'hui dans près de 140 rassemblements dans toute la France à l'appel de la CGT, de FO, de la FSU, de Solidaires, de plusieurs organisations de jeunesse, des milliers de personnes à Paris, 2500 à Marseille, 1500 à Lyon, avec dans les cortèges les mêmes mots d'ordre, la revalorisation des salaires et notamment de ceux des fonctionnaires dont le point d'indice est gelé depuis 5 ans. À Tours, un cortège d'un millier de manifestants auxquels la CFDT exceptionnellement s'est associée. C'est un reportage d'Adrien Bossard.
Un drapeau Force ouvrière dans une main, le poing levé pour l'autre, Françoise s'époumonne sur les différents slogans. Pourtant, ce n'est pas une habituée des cortèges.
C'est la première fois que je viens en manifestation. On en a marre, on nous retire les primes.
Technicienne à la mairie d'Amboise depuis 15 ans, elle a de plus en plus de mal à joindre les deux bouts.
C'est toujours le même salaire, 1300 euros par mois. On sort plus, hein, on reste à la maison. Hein. L'essence ou le gasoil, c'est pareil. Hein. Moi, j'ai 15 km par jour. Je vois qu'hier, il était 1,72 le gasoil. C'est dur, à la fin du mois, c'est très très dur.
Dans la fonction fonction publique, cela fait 5 ans que le point d'indice est gelé. À côté des salaires du privé, ça fait tâche pour Kofi.
Actuellement, on n'a plus de médecins du travail parce que la rémunération est trop basse, ils ne viennent pas. On n'a plus d'ingénieurs.
Il travaille à la bibliothèque municipale de Tours.
Pour compenser, il n'y a pas grand-chose. C'est des primes, mais les primes ne sont pas comptabilisées dans le calcul de la pension de retraite. C'est du pouvoir d'achat qui est saupoudré ici et là, mais d'une façon complètement inégalitaire.
Et si quelques secteurs, comme la santé, viennent récemment d'obtenir une petite revalorisation, ça ne change pas grand-chose, selon Sophie, infirmière à l'hôpital de Loche.
Vous connaissez beaucoup de gens qui vont travailler pour un tout petit peu plus que le SMIC, pour bosser les week-ends, pour bosser la nuit, pour avoir un planning et du jour au lendemain, on vous dit « Ah ben non, finalement, vous deviez être en repos, vous allez travailler, vous en connaissez beaucoup, les gens ?» Ben non.
Dans son service, plusieurs de ses collègues sont partis pour se mettre en libéral.
Adrien Bossard de France Bleu Touraine, Jean Castex, le Premier ministre, recevra les 14 organisations syndicales de façon bilatérale d'ici la mi-février. Lui devra répondre aux accusations graves portées contre son groupe. Le directeur général d'Orpea, le leader des EHPAD privés, est convoqué mardi prochain, le 1er février, dans le bureau de la ministre déléguée chargée de l'autonomie des personnes âgées, Brigitte Bourguignon. Une enquête de l'inspection générale des affaires sociales pour être diligentée à la suite de cet entretien. Le nombre d'actes antisémites dans le monde a atteint un record. L'an dernier, plus de 10 incidents par jour, selon les derniers chiffres de l'agence juive publiée il y a 3 jours. Et pour la France, on parle de 589 faits recensés en 2021. C'est dans ce contexte qu'un regain de l'antisémitisme que le Premier ministre Jean Castex s'est rendu aujourd'hui avec plusieurs autres ministres au camp d'extermination d'Auschwitz en Pologne pour commémorer le 77e anniversaire de la libération du camp. Yannick Falt a suivi sa visite pour France Inter.
Auschwitz, mais aussi Birkenau, juste à côté, le camp d'extermination où périrent plus de 900 000 juifs. C'est guidé par le directeur du musée d'Auschwitz, Piotr Siwiński, que Jean Castex effectue la visite à pied dans un froid glacial.
Les autres prisonniers étaient obligés donc de sortir les corps et cadavres et brûler dans ces fours crématoires que vous voyez ici.
Le Premier ministre est accompagné d'une importante délégation, quelques rescapés notamment, dont Élie Buzyn, le père de l'ancienne ministre.
Ma mère m'a exhorté en disant « Nous, on ne va pas survivre à cette guerre et je t'ordonne de tout faire pour survivre et raconter ce qui est arrivé. »
Une dizaine de lycéens écoutent attentivement, dont Charlotte, en terminale à Dijon.
Ça me donne encore plus envie de passer cette mémoire comme ils nous disent de faire, que personne n'oublie.
Un devoir de mémoire pointé aussi par Jean Castex, message très politique à 73 jours du premier tour de la présidentielle.
Tous les discours négationnistes trouvent ici la seule réponse qui vaille, celle de la vérité dans son atrocité.
Le Premier ministre qui enfonce le clou en petit comité, il y a toujours des gens qui veulent réviser l'histoire, la contester, la travestir. Il faut les combattre avec la dernière énergie. Éric Zemmour dans le viseur, lui qui avait affirmé que le maréchal Pétain avait sauvé des juifs français. Auschwitz, Yannick Falt, France Inter.
Une nouvelle étape vers la candidature d'Emmanuel Macron à la présidentielle. Ses soutiens viennent aujourd'hui de lancer un site web avec vous 2022.fr, mais sans le visage du chef de l'État, le tout accompagné de 500 000 tracts, 140 000 affiches. La campagne s'accélère donc dans la majorité. On y revient dans le journal de 19h d'Hélène Philly. Nouveau rendez-vous d'Éric Zemmour avec la justice aujourd'hui, cette fois pour son clip de campagne. Le candidat d'extrême droite est assigné pour contrefaçon du droit d'auteur. Et puis voilà des chiffres qui devraient alimenter la campagne électorale. Dernière photographie de la délinquance en 2021 avec les atteintes aux personnes en forte hausse de 12%. Parmi elles, les violences sexuelles font un bond spectaculaire de 33% avec 75 800 faits dénoncés à la police. Conséquence de la libération de la parole des victimes selon la place Beauvau. Enfin, ce terrible fait divers en Seine-et-Marne aujourd'hui. Un enfant de 10 ans retrouvé mort dans une valise, jeté dans une benne à Gravat en Seine-et-Marne. Sa mère a disparu depuis hier soir de son domicile de Ferrières-en-Brie.
Il y a 19h09, Sébastien, ambiance glaciale sur le front ukrainien.
Oui, sans surprise, les États-Unis et l'OTAN ont répondu non aux exigences russes d'interdire à tout nouveau pays de rejoindre l'Alliance Atlantique. Moscou a pris acte, sans toutefois fermer la porte à de futures négociations. C'est dans cette atmosphère tendue que l'on a appris aujourd'hui que l'Allemagne avait arrêté en juin dernier un scientifique russe dans une université bavaroise. Un étudiant de 29 ans soupçonné d'avoir espionné le programme spatial Ariane et qui devrait bientôt comparaître devant un tribunal. Les détails avec notre correspondant à Berlin, Ludovic Piétenu.
assistant de recherche à l'université bavaroise d'Augsbourg. L'étudiant russe est connu de tous dans les bureaux de l'Institut de recherche sur les matériaux. Un lieu très en pointe pour ses découvertes utiles à la construction automobile ou aéronautique, mais qui peuvent aussi intéresser les militaires. C'est le profil d'espion le plus rare, dit un spécialiste à la presse allemande, quelqu'un de familier, une personne de l'intérieur qui ensuite se met à espionner en connaissance de cause. Dans son cas, la justice a prouvé qu'il avait reçu en liquide 2 500 euros, mais qu'il avait pu agir librement pendant presque 2 ans et rendait compte régulièrement à un haut responsable du renseignement extérieur russe. Selon le parquet, il aurait au moins transmis des informations sur des projets de recherche dans le domaine de la technologie aérospatiale, notamment les différentes étapes de développement du lanceur européen Ariane. L'Allemagne est coutumière du fait, on dénombre 22 cas d'espionnage recensés l'an dernier, parmi lesquels un autre russe qui avait transmis les plans du Bundestag, un peu moins de cas l'année précédente avec 14 espions démasqués. Les Russes figurent toujours en bonne place, mais ici en Allemagne, ce sont les Turcs qui espionnent le plus.
Ludovic Piétenu à Berlin. Après le Danemark et la Grande-Bretagne qui s'apprêtent à lever toutes les restrictions sanitaires contre le Covid, la Catalogne a décidé elle aussi de supprimer de son côté le pass sanitaire pour rentrer dans les bars, les restaurants et les salles de sport. Le ton monte entre Paris et Bamako. Jean-Yves Le Drian, le ministre des Affaires étrangères, dénonce ce soir une junte illégitime au pouvoir au Mali qui prend, je cite, des mesures irresponsables. La ministre de la Défense, Florence Parly, avait parlé, elle, de provocation il y a 2 jours, sévèrement critiqué ensuite par un membre de la junte qui lui a tout simplement conseillé de se taire.
Il a révélé son cancer du poumon il y a 2 jours.
Le chanteur Florent Pagny annule donc sa tournée suite à la découverte d'une tumeur inopérable. Il est l'un des 46 000 Français victimes de ce cancer, parmi les plus dangereux. Et ces révélations font ressurgir le débat. Bonsoir Véronique Julia.
Bonsoir.
Faut-il instaurer un dépistage organisé pour les gros fumeurs?
Et oui, c'est un sujet car les 3/4 de ces cancers sont diagnostiqués aujourd'hui à un stade avancé, souvent inopérable. On les découvre tard parce que la plupart du temps, ces cancers évoluent en silence, sans symptômes. Et justement, quand les symptômes se font sentir, c'est que le cancer est déjà métastasé. Le professeur Nicolas Girard est oncologue à l'Institut Curie, spécialiste du poumon.
Ce qui donne les symptômes, ce sont les métastases. Soit les métastases dans les ganglions qui vont modifier la voix du patient, éventuellement sa respiration de façon importante, mais souvent des signes liés à des métastases, par exemple au niveau de l'os, qui sont très douloureuses. Le poumon, c'est un organe qui n'est pas innervé. Il n'y a pas de symptômes spécifiques, notamment chez des patients fumeurs qui ont souvent une toux chronique.
Alors, partant de ce constat, faudrait-il dépister systématiquement et régulièrement tous les publics à risque, c'est-à-dire les gros fumeurs de plus de 50 ans et qui fument depuis plus de 25 ans. Depuis des années, les médecins français réclament ce dépistage qui se fait déjà d'ailleurs en Grande-Bretagne, en Belgique et aux Pays-Bas, car il y a des preuves scientifiques, disent-ils, que ça marche.
Faire des scanners de façon répétée à des personnes à risque, ça réduit de 23% la mortalité chez les hommes, de 38% chez les femmes. L'efficacité du dépistage, elle est identique, voire supérieure à celle de la mammographie dans les cancers du sein.
Et pourtant, saisie sur le sujet en 2016, la Haute Autorité de Santé a jugé à l'époque que ce dépistage n'était pas utile et que les preuves d'efficacité étaient faibles. L'an dernier, Emmanuel Macron a évoqué ce dépistage, mais sans donner suite. Je rappelle que les chances de survie à 5 ans pour un cancer du poumon dépisté tard avec métastases sont inférieures à 10%.
Véronique Julia, spécialiste santé à France Inter.
On termine avec le boom de la BD manga en France.
Oui, 7 mangas dans le top 10 des meilleures ventes de bandes dessinées l'an dernier. Désormais, une BD sur 2 vendue en France est un manga. Dernier bilan du secteur publié aujourd'hui. Analyse de cet engouement avec le critique Xavier Guilbert. Il est spécialiste du marché de la bande dessinée.
Il y a plusieurs raisons qui expliquent l'ampleur du phénomène manga. D'une part, quelque chose qui a bénéficié à l'ensemble du marché du livre, qui est le report des dépenses culturelles à cause de la pandémie vers le livre. Il y a aussi un autre élément qui est que toutes les plateformes de streaming, Netflix, Amazon Prime, se sont beaucoup positionnées sur les dessins animés japonais qui sont tirés de ces mangas. Il y a un élément aussi qui est en faveur du manga, c'est son aspect feuilletonnant. Quand vous commencez Naruto, il y a 72 volumes. One Piece, on en est au 100e. Quand les lecteurs commence à mettre le doigt dedans, ça réalise beaucoup de ventes. Quand il y a un secteur qui prend une place prépondérante, ça peut inquiéter. Ce serait plus rassurant d'avoir un marché qui est plus sain, qui repose de manière plus équitable sur plusieurs composantes. ça représente aussi une forme de potentiel, puisque ça veut dire qu'on est en train de recruter de nouveaux lecteurs, et ces nouveaux lecteurs peuvent ne pas rester exclusifs au manga et être intéressés par d'autres types de récits.
Voilà, Xavier Guilbert, joint par Alexis Demeyer. Au total, 85 millions de BD ont été vendus l'an passé en France, 50% de plus qu'en 2020.
Sébastien Logénie, pas mal, oui, en effet. Merci beaucoup. À tout de suite, Sébastien. Dans Un jour dans le monde, vous nous parlerez notamment d'un véritable raid dans un hôpital du Costa Rica pour en sortir un enfant qui allait se faire vacciner. Ce soir, avec le grand invité d'Un jour dans le monde, nous allons voir en Grande-Bretagne si Boris Johnson risque sa place pour avoir fait la fête quand son pays était confiné. Et puis à 19h20, je vous remets le téléphone sonne dans l'oreille. On parle de cette primaire populaire lancée cet après-midi. Les votes ont commencé. Le processus, il est intéressant. Le mode de scrutin, il mérite qu'on s'y arrête et on vous l'expliquera. Mais est-ce que la gauche va en sortir plus forte? C'est une autre histoire. On parle du fond et de la forme et on attend vos appels au 01 45 24 7000. Un œil sur le ciel.
La météo à toutes jambes avec Bleu Forêt, le fabricant français de collants élégants. Noir ou vert, prune ou rouge, de toutes les couleurs, fin ou opaque. Rendez-vous sur bleuforêt.fr.
Élodie Calac, bonsoir. Beaucoup de nuages au nord, voilà ce que vous nous promettez pour demain.
Et oui, en effet, bonsoir à tous. On a une perturbation qui est arrivée par le nord de la Seine. Elle glisse ce soir vers l'est avec seulement quelques gouttes. Un petit risque de pluie verglaçante tout de même dans la soirée, voire quelques flocons du nord-est au centre-est. Demain, ce temps persistera de l'Auvergne et du Lyonnais jusqu'à l'Alsace. Donc prudence sur les routes le matin. On a de petites éclaircies qui reviendront sur ces régions l'après-midi. Des éclaircies aussi sur les régions du nord, mais après une matinée vraiment bien grise. Et puis sur le sud-ouest, là aussi la grisaille se morcellera au profit du soleil dans l'après-midi. Ça restera plus laborieux vers la Garonne.
Le soleil qui brillera sur le sud-est.
Dès le matin, oui, au prix du vent, jusqu'à 110 km à l'heure pour le Mistral. Soleil aussi en montagne. Et puis des températures en petite hausse. Alors encore des gelées tout de même sur le sud et sur l'est, entre moins 6 et 0 degrés. Et puis l'après-midi, il fera 4 à 8 degrés, 8 à 11 près de l'océan et près de la Manche, et 13 à 17 en Méditerranée. Fabienne.
Merci beaucoup, Élodie Calac de Météo France. À tout à l'heure, après 19h.